Alors, regardons quelques textes et essayons d'y réfléchir après pour mieux comprendre qu'est-ce qui nous conduit vers cet acte d'offrande à l'amour miséricordieux. C'est cette voie. Jésus est la voie. Qu'est-ce qui, dans le mystère du Christ, est la voie auquel nous revenons tout le temps en vue de d'avoir regardé la fin qui caractérise, je crois, vraiment sa vie contemplative. Maintenant, nous essayons de regarder le comment pour y aboutir. Comment aboutir à cet acte d'offrande pour vivre de la manière la plus profonde cette unité d'amour avec Jésus, avec le Père. C'est dans l'histoire d'une âme, vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte. Ce désir, l'attention fondamentale. Mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Merveilleux comme humilité, comme pauvreté, le regard de Dieu. Admire les saints ou des montagnes qui se perdent dans les cieux. Et elle, grain de sable, obscur, foulée sous les pieds des passants, le passant. Au lieu de me décourager, je me suis dit, l'inspiration d'Esprit Saint, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Nous allons dire, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. C'est bien l'inspiration du Saint-Esprit, là. Nous sommes dans un siècle, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui, hein? Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. C'est les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus. Car je suis trop petite pour monter le rude escalier de perfection. Et comme tout ça est tellement vrai pour nous. C'est vrai, nous n'avons plus les vertus des saints d'autrefois. Et si on recevait, on avait certes les gens vertueux, comme on faisait avant. et la fissure se fermerait. Bien évident. Et la femme Dieu me fait comprendre qu'il faut accepter d'être de son siècle, pas rêver du tout au chevalier d'avant, au héros d'avant. L'éducation que les jeunes reçoivent aujourd'hui, c'est très rare hein, que ça aboutisse à la vertu. Très rare. Alors est-ce qu'on doit arrêter la vie religieuse? La question que certains se posent est conclue comme ça. Alors Dieu a donné la petite Thérèse, oui, bien, qui est authentiquement évangélique. C'est l'évangile dans toute sa pureté. Vu dans un cœur d'enfant. C'est l'aspect de la théologie mystique de l'évangile. Être vrai en face de Dieu. Accepter ce qu'on est. Avec Dieu, on ne triche pas. Accepter ce qu'on est. On est boiteux, mais oui, on est boiteux. Pourquoi pas? Jésus nous dit que mieux entrer dans le ciel boiteux que d'avoir les deux jambes. D'être orgueilleux. Car je suis trop petit pour monter le riz de ce qu'est dit la perfection. Alors, j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, l'objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches et voici que j'ai trouvé les recherches de la vérité, cette ténacité de découvrir ce qui doit être pour elle et pour ceux qui suivront. On entre dans un âge nouveau. C'est vrai, 20e siècle, c'est un âge nouveau. Il faut à tout prix découvrir quelque chose qui conduit vraiment au but. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Parole du psaume. À jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses, me sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi je veux chanter vos miséricordes. Vous m'avez instruit dès ma jeunesse, psaume 70. Vous m'avez instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai annoncé vos merveilles. Je continuerai de les publier dans l'âge le plus avancé. Quel sera-t-il pour moi cet âge avancé? Il me semble que ce pourrait être maintenant, car 2000 ans ne sont pas plus à vos yeux du Seigneur que 20 ans, qu'un seul jour. Ah, ne croyez pas, mère bien-aimée, que votre enfant désire vous quitter. Ne croyez pas qu'elle estime comme une plus grande grâce de mourir à l'aurore plutôt qu'aux déclats du jour. Ce qu'elle estime, ce qu'elle désire uniquement, c'est de faire plaisir à Jésus. Maintenant, qu'il semble s'approcher d'elle pour l'attirer au séjour de sa gloire, votre enfant se réjouit. Depuis longtemps, elle a compris que le bon Dieu n'a besoin de personne, encore moins d'elle que des autres, pour faire du bien sur la terre. Alors, c'est cela qu'il faut essayer de comprendre, ce que peut représenter cette petite voix. Qui, profondément, se ramène à la voix d'abandon. Je crois qu'on peut le dire. Je prends cet autre texte qui nous dit expressément. Cette parole de Job, donc c'est le 7 juillet, dans le carnet jaune, sœur Agnès. Cette parole de Job, quand même Dieu me tuerait, j'espérais encore en lui. Cette parole m'arrache dès mon enfance. Mais j'étais longtemps avant de m'établir à ce degré d'abandon. Maintenant j'y suis. Le bon Dieu m'y a mise. Il m'a prise dans ses bras. Il m'a posée là. Toujours les bras du Seigneur. Hein. Les bras du Seigneur, c'est l'espérance. Hein. Faut pas l'oublier. Dès que vous faites un acte d'espérance, vous êtes dans les bras du Seigneur. Alors vous le sentez plus ou moins, mais vous êtes dans les bras du Seigneur. Parce que c'est lui qui vient à notre secours. Et c'est lui qui nous permet d'avancer à son rythme divin. Et non plus à notre rythme. C'est ça qu'il faut saisir. Et c'est ça la petite voix. C'est de nous mettre au rythme du Seigneur. Et non plus à notre rythme. Si on se met à notre rythme, ben nous savons très bien que le Seigneur nous laisse. On n'a pas besoin de lui. Alors il nous laisse. Parce qu'il est très très respectueux de notre liberté. C'est pour ça que la petite Thérèse a bien compris. Ôte-moi la liberté de t'enfoncer. Il est très respectueux de notre liberté. Alors, si nous voulons vivre notre vie selon notre rythme, très bien. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas ça. La grâce nous met au rythme de vie de la très sainte Trinité. Semence de gloire. C'est pas moi qui invente ça, c'est l'apôtre. Semence de gloire. Donc nous sommes au rythme, notre vie divine est au rythme de la très sainte Trinité. Comme le cœur de Jésus. Et ceci grâce aux vertus théologales. Et donc, pour avancer, on sait que c'est précieux ce temps qui nous est donné. On n'a qu'une vie. Et donc c'est très précieux le temps que nous est donné. Je ne sais pas combien de temps ça durera. On ne sait pas quand reviendra le Christ. On ne sait pas si nous disparaîtrons rapidement. Ça n'a pas d'importance. Vous voyez, elle l'a dit. C'est ça qui est merveilleux. C'est pas une question d'âge. Non, non. Le rite de la très sainte Trinité dépasse tout ça. Mettre au rite de la très sainte Trinité, c'est de choisir cet ascenseur divin qui sont les bras du Christ. Et nous mettre dans cette attitude d'abandon. Alors c'est le grand mystère de l'abandon. Et je crois que c'est cela seul qui peut conduire à l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. C'est la voie. Et c'est la voie de la petitesse. Alors pourquoi la voie de la petitesse? Parce que c'est reconnaître notre néant en face de Dieu. elle le souligne souvent, ça. C'est reconnaître notre néant face de Jésus, reconnaître cette parole de Jésus si forte qu'elle prend la lettre. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne montez même pas une marche. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est le point de départ de l'abandon. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'est pas abandonné. Et je parle là dans la perspective de la petite Thérèse. Hein. Mais ce que je crois, tout à fait juste et vrai. Je ne peux pas dire autre chose. L'acte d'adoration, elle n'en parle pas beaucoup, mais c'est présent. L'acte d'adoration nous fait comprendre notre néant. C'est-à-dire nous fait comprendre que notre âme est créée actuellement par le Père, par la très sainte Trinité. Vivre de cet acte créateur, toucher dans la foi cet acte créateur, c'est ça l'adoration. Nous mettre dans la lumière de la sagesse du créateur et comprendre que du côté de Dieu, l'acte de la création est éternel. Donc, il est actuel. Je puis maintenant découvrir et vivre de cet acte créateur de Dieu qui crée mon âme. Et par là, je découvre que je ne suis rien. C'est, j'allais dire, la première expérience de ma petitesse. Je suis entièrement dans les mains de Dieu. Petitesse qui est toute relative à Dieu, à l'acte créateur de Dieu, et entièrement remise à Dieu, à son amour, à sa lumière. Pour cela, les actes d'adoration sont si importants. Il faut apprendre à les faire. Les adorateurs en esprit, en vérité, les faire avec Jésus, c'est le point de départ de toute éducation divine sur nous. On ne peut pas supprimer ça. Mais ce n'est pas la méditation qui est le point de départ, c'est l'adoration. C'est du reste beaucoup mieux, parce que la méditation, il faut encore un tout petit peu d'instruction, il faut encore un peu de temps. Tandis les actes d'adoration, on peut les faire n'importe quand, même quand on a mal à la tête. Ils sont moins brillants, mais ils sont peut-être plus cachés dans l'amour. Se mettre en présence de ce regard de la sagesse du Dieu créateur sur nous. Et reconnaître cette totale dépendance dans tout notre être. Et aimer cette dépendance. Parce que si vous vous cabrez devant cette dépendance, vous n'adorez pas. L'adoration est un acte d'amour. C'est l'acte fondamental d'amour à l'égard de Dieu. Et laisser Dieu nous prendre, nous porter. Une main douceoise, être dans les mains de notre Père, de notre Créateur. Il y a un second regard sur notre petitesse. C'est nous regarder dans la lumière de Jésus à la croix, où il nous reprend, il nous recrée, il nous donne sa grâce. Et c'est surtout ce regard sur lequel Thérèse insiste. Mais elle ne néglige pas du tout l'autre. Il est présent. Parce que l'abandon, le véritable abandon, implique l'adoration. Je crois qu'on ne peut pas s'abandonner vraiment à Dieu sans l'adoration. Et des actes d'adoration qui se multiplient. Ce n'est pas un acte d'adoration. Mais ce sont des actes d'adoration qui ponctuent toute notre journée, qui nous mettent dans cette attitude de remise totale entre les mains de Dieu. L'autre petitesse, nous mettre sous le regard de Jésus, agneau de Dieu, qui porte l'iniquité du monde à la croix. C'est comprendre que Jésus nous aime malgré nos faiblesses, nos fragilités, nos impuissances, notre petitesse. Qu'il y a un véritable amour du Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus nous a aimés dans notre état de pécheur. Cet état de pécheur, il demeure tout le temps, hein. Il est actuel. Personne d'entre nous n'oserait dire qu'il est immaculé. Et nous sommes bien obligés de reconnaître que les concupiscences agissent en nous encore. Quelquefois elles se réveillent violemment, de façon telle qu'on est plongé dedans. Concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et de la vie. Donc la grosse vanité imaginative, on est au cœur du monde, le nombril du monde. Tout doit passer par nous. Et puis l'orgueil. C'est plus terrible que tout, hein. Les fautes de la chair, elle nous humilie terriblement. Et Dieu les pardonne parce qu'il sait notre fragilité. Une des choses qui m'a le plus frappé auprès de Marthe, c'était ce regard de Marthe à l'égard de ses misères. Quand je prêchais la retraite des prêtres, je voyais, et j'ai vu plus d'une fois, ce regard de Marthe vis-à-vis de certains qui étaient vraiment comme esclaves malgré leur lutte, esclaves de la concupiscence charnelle. Et Marthe, tout à fait à la suite de la petite Thérèse, leur disait, mais vous avez lutté vous n'arrivez pas à obtenir la vertu qui vous permettrait de continuer votre route tout droit. Est-ce que vous avez pensé de présenter cette fragilité à Jésus, à sa miséricorde? Ou est-ce que vous n'avez essayé qu'une seule chose, c'est d'acquérir la vertu? Donc, vous perfectionnez, puisque toute vertu nous perfectionne. La manière, c'est ce prêtre qui me l'a répété, la manière dont Marthe lui a dit ça, il a fait qu'à partir de ce moment-là, il n'a plus désespéré. Il a compris le regard du Christ sur lui. Comme la petite Thérèse le dit, hein, Dieu aime de regarder notre fragilité. Ça, c'est le regard d'amour maternel. Vous savez bien, ordinairement, quand dans une famille, il y a un enfant plus fragile au point de vue de la santé, qu'on a eu peur de le perdre plusieurs fois, la mère a pour lui une tendresse unique. Elle l'aime d'une manière très spéciale, très particulière, en raison même de sa fragilité, de sa misère. Mais voyez, il faut, en quelque sorte, que cette fragilité ne nous appartienne plus. Que ces faiblesses ne nous appartiennent plus pour qu'on les offre et qu'on les accepte. Manière merveilleuse, hein. Ceci fait partie de la petite voie, d'entrer pleinement dans la miséricorde. Pour la petite Thérèse, accepter ses misères, les accepter royalement, c'est permettre à la miséricorde du Christ de pouvoir surabonder. Chercher la perfection, il y a toujours un danger de pharisaïsme. C'est pas ça qu'on doit chercher en premier lieu. C'est bien évident qu'on doit lutter, c'est sûr, qu'on doit chercher par tous les moyens d'acquérir les vertus, c'est bien évident. Mais certains ont un terrain beaucoup trop abîmé, laminé, ce qui existe aujourd'hui. Un terrain sur lequel ils ne pourront jamais construire une maison forte, acquérir des vertus fortes. Ici, Dieu permet cela pour qu'on découvre, comme dit Thérèse, une nouvelle voie. Cette voie de l'amour, de la miséricorde. Il faut lutter toute sa vie pour acquérir les vertus. Parce que toutes nos vertus sont très fragiles, hein. C'est bien évident. Même si on paraît pas trop mal, nos vertus ne sont pas si belles. On a pas à s'inventer. On le sait très bien. Alors, c'est du plus et du moins, il n'y a pas grande différence dans cet ordre-là. Que le plus vertueux d'entre vous se lève pour dire « Je suis moi le plus humble de tous. » Alors, à partir de là, on pourrait mesurer les vertus des autres, et on verrait qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas beaucoup de différence. Comparativement à la justice et à la miséricorde de Dieu, Il n'y a pas grande différence. Tout petite, toute petite. Quand on regarde ça d'en haut. Alors on comprend. Quand on est en face de cette fragilité, Dieu lève, Jésus lève, et s'en lui présente pour qu'il enveloppe de sa miséricorde. Alors ça devient quelque chose de royal, mais royal au niveau divin, comme Jésus est roi, c'est très caché. C'est pas une tactique, c'est pas un procédé, c'est pas une méthode, non. C'est une chose qu'on reprend tout le temps. Être en contact direct avec la blessure du cœur du Christ. En contact direct avec le cri de soif du Christ. Il a tellement soif d'exercer sa miséricorde. Il a tellement soif que nous soyons la proie de sa miséricorde. Et ça, ça dépend de nous. Puisque la miséricorde, elle se fait à deux. Il faut quelqu'un qui reconnaisse sa fragilité, sa faiblesse, sa petitesse, qui dise loyalement qu'il est incapable de s'en tirer lui-même. Alors il réclame l'aide de Dieu. Il réclame la miséricorde. Parce que par lui-même, il ne peut pas. Et Jésus miséricordieux peut alors agir. Celui qui au contraire se présente en face de Dieu comme parfait, comme cherchant avant tout la perfection, sa perfection. Jésus ne peut pas lui faire la miséricorde. Impossible. Mais vous voyez bien, vous êtes très attentif, il ne peut pas tomber alors dans une attitude d'enfant gâté. Ah. L'enfant gâté, c'est celui, ah c'est très bien, voulez-vous, je ne peux pas faire ça. Alors faites-le pour moi. Alors quand ça se répète toute la journée, le Seigneur en dit assez, assez, hein. Fais des efforts. Travaille. Et quelqu'un qui travaille loyalement, qui cherche par tous les moyens de faire pleinement ce qui lui est demandé, et qui s'aperçoit de ses crevasses profondes. On s'en aperçoit plus profondément à 40 ans qu'à 20 ans, à 70 ans qu'à 40 ans. On s'aperçoit de ses crevasses, alors on se décourage. Si on n'entre pas dans cette nouvelle voie, si on ne comprend pas que Dieu a permis cela pour qu'il y ait un appel très fort à la miséricorde, et qu'on le dise à Jésus, être enveloppé de la miséricorde. C'est toute la grandeur de la vie chrétienne, cela. On peut être revêtu de la miséricorde du Christ. Puisqu'on est revêtu du Christ, hein, dit saint Paul. On est revêtu de sa miséricorde. C'est ce que les anges admirent en nous. Demandez un petit peu aux anges, votre ange gardien, si vous êtes un petit peu habitué à lui parler. Demandez-lui conseil de temps en temps là-dessus. Il est en admiration de voir que les pauvres petits chrétiens, les pauvres petits malheureux, qui ont des mains sales, des pieds sales, puisqu'ils sont dans la boue, ils essaient de sortir du péché, de les voir revêtus du Christ, revêtus de la miséricorde du Christ. Ils sont à la taille du Christ. Tandis que les anges, ben, ils n'ont pas cette grâce d'être revêtus du Christ. Ils sont revêtus de la grâce de justice, qui est un habit divin et trinitaire, qui est magnifique. Mais dans la très sainte Trinité, parmi toutes les créatures, celle qui est introduite d'une manière unique auprès du Verbe, dans le sein du Père, sous le souffle de l'Esprit-Saint, c'est l'âme de Jésus. C'est Jésus lui-même qui est Fils bien-aimé du Père. Et la grâce du Christ, qui a une qualité unique, nous est donnée. Et c'est elle qui nous revêt. Mais le Christ ne peut nous revêtir que si nous lui demandons. Il nous laisse libres. Si nous voulons nous dépêtrer nous-mêmes par nos méthodes, par nos procédés, Jésus nous laisse. Si au contraire nous avons compris, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et qu'on a compris, mais radicalement. Alors, on supplie Jésus tout en continuant nos efforts, mais au-delà de tous nos efforts, au-delà de toutes nos luttes, il y a cet appel constant. Jésus, aie pitié de moi, pécheur. Jésus, aie pitié de moi, pécheur. Et c'est la miséricorde du Christ alors qu'il s'empare de nous et qu'il nous met au rythme même du Fils bien-aimé. Il y a quelque chose de très grand, la petite voix. Vous voyez que c'est un extrême réalisme, ça. Un réalisme divin. Le réalisme premier de la petite créature. Reconnaît sa totale dépendance à l'égard du Créateur. Et ce réalisme encore plus radical qui appelle la miséricorde infinie de Jésus. De Jésus crucifié et glorifié de la blessure du cœur du Christ. Et qui présente à Jésus toutes ses faiblesses, tous les dégâts qui existent en nous, pour que Jésus lui-même s'empare de nous. Nous passons là, vous voyez, de l'adoration à cet appel dans une confiance totale à la miséricorde du Christ, un appel d'amour, un cri de soif du pauvre, de celui qui n'a rien et qui a accepté de ne rien avoir. Qui a accepté d'avoir abîmé la robe blanche du baptême, de l'avoir abîmé. Oui, c'est l'enfant prodigue. On est tous enfants prodigues. Plus ou moins, mais ce n'est pas grand-chose. On est tous enfants prodigues. Alors on vient supplier Jésus d'être là,
nous reprendre malgré toute notre mauvaise conduite, malgré toutes nos bêtises. On lui offre tout cela. L'adoration toute divine implique le don de crainte, le don de sagesse, le don de crainte. Cette confiance absolue implique le don de sagesse, le don d'intelligence. C'est dans un regard contemplatif du mystère de la croix qu'on peut avoir cet acte de total abandon, de remise totale. Oui, ce n'est pas du tout une attitude de passivité qui conduirait à l'attitude de l'enfant gâté. C'est l'attitude de celui qui met tout en cause pour rejoindre la miséricorde de Jésus, qui met tout en cause dans sa volonté pour rejoindre l'acte créateur. Il sait que Jésus l'appelle, mais il met tout en cause. C'est là où nous pouvons découvrir toute la différence qui existe entre cette attitude d'abandon divin qui implique l'adoration et cette totale confiance dans la miséricorde du Père. La différence entre cet abandon divin et l'abandon psychologique. L'abandon psychologique n'est pas une qualité. L'abandon psychologique, on doit en sortir, hein. Cette attitude de passe, de paresse, quelquefois qui relève tout simplement de désespoir. L'abandon psychologique, c'est celui qui prend la forme du milieu dans lequel il est. Il n'a plus de vertèbres. Il n'a plus d'intention profonde de vie. Va comme je te pousse. Il prend la forme de la cuillère qu'il ramasse. Hein, voilà l'image. C'est ça l'abandon psychologique. C'est terrible. C'est terrible. Ça peut arriver, ça, si on ne fait pas grande attention. D'être tout le temps dans une attitude de conquête divine. Et humaine aussi, et divine. L'abandon divin réclame justement cette intention constante de conquête, parce que on fait honneur à la croix du Christ. Il est victorieux, il est pleinement victorieux, et par sa grâce, nous sommes victorieux. Et nous sommes pleinement victorieux. Même si nous ne voyons pas tout de suite les résultats. Mais c'est la victoire du Christ qui la présente. Et donc, ça exige une très grande détermination. On est déterminé à tout remettre entre les mains de Jésus. Dans ses bras, il est l'ascenseur. On lui remet tout entre ses bras. Et on remet tout à Dieu créateur en l'adorant, en le remerciant de tout ce qu'il nous a fait, de tout ce qu'il nous a donné. La petite voix de Thérèse, cette voix d'amour qui conduit à l'abandon, dans l'acte d'amour miséricordieux. est une voie droite. Elle le dit. Donc, déterminée. Une voie qui est pour les tout petits, pour ceux qui acceptent d'être rien. Le petit grain de sable. Et donc, il veut aller le plus loin possible dans cette unité avec la volonté du Père. Je crois que c'est les deux grandes conditions pour entrer dans cette petite voie, qui est une voie royale. Elle est petite parce que elle ne cherche pas à faire des exploits. Elle ne cherche pas à faire des actes héroïques, visibles. L'héroïcité est tout intérieure dans la remise totale de tout aux mains de Dieu. C'est une héroïcité d'amour, donc cachée à nos propres yeux. Et Dieu seul la voit. Cette nouvelle voie d'abandon divin permet, malgré notre fragilité, d'aller jusqu'au bout, d'atteindre le ciel. Mais on demeure dans l'humilité qui fait que les moindres détails de notre vie doivent être assumés par l'amour, doivent être portés par l'amour. On n'attend pas, vous voyez, des situations tragiques pour agir. On agit toujours. Là aussi, hein, ça distingue bien de l'enfant gâté qui n'agit pas. On agit toujours. Parce que n'importe quel moyen est bon pour exprimer notre amour. Pour montrer notre soif d'aimer. Et pour aller plus loin. On sait que ce sont ces tout petits riens qui peuvent plaire à Jésus. Parce qu'on lui offre, on lui donne, comme petit signe. C'est la petite fleur violette offerte à Dieu. Pour montrer qu'on l'aime, et qu'on est à lui, et qu'on est près de lui. On demeure dans cette attitude contemplative. Mais la contemplation chrétienne, hein, et la contemplation chrétienne n'implique aucune abstraction. On devient vraiment le petit enfant de Dieu. Et on vit de cela en sachant que Dieu nous le demande pour que nous restions fidèles à tout ce qu'il réclame de nous. C'est bien une attitude d'attente, donc, de la vertu d'espérance. On s'appuie uniquement sur Jésus, ses bras de crucifié. On s'appuie uniquement sur lui, parce qu'on sait que lui seul peut nous conduire au sommet, auprès du Père.